SOS Boisé, un texte de Daniel Pellerin. La terre, c'est notre mère. On vient de son ventre aimant. Elle a aussi porté tout ce qui nous entoure. Elle sait depuis toujours nous guérir. Une citation de Marie-André Gilles. Les bouleversements climatiques qui s'opèrent à l'échelle de la planète, avec leur effet dévastateur, suscitent plus que jamais la préoccupation pour la sauvegarde de nos milieux naturels. Cela concerne tout autant la protection de nos forêts anciennes que de nos cours d'eau, avec la flore et la faune aquatique, et les parcelles de terre publique encore pratiquement intactes, dont celles à proximité des populations rurales et urbaines. Mais le réveil des populations fait face à un establishment industriel et commercial qui s'enracine dans le colonialisme lointain et moderne, et qui a eu bien le temps, avec la collaboration souvent complaisante des gouvernements, de s'approprier la presque entièreté du territoire et de son sous-sol. Agriculture industrielle, compagnies forestières et extractives, marines marchandes, etc. On pourrait objecter que la population a largement profité du développement économique dans ces divers secteurs. Cependant, c'est ce même modèle de développement qui est à la source de l'exploitation irresponsable des ressources et des dérèglements climatiques actuels. Les associations citoyennes, cherchant à modifier la trajectoire actuelle de l'économie, tant sur le plan local que national, doivent composer avec des forces de résistance bien organisées et motivées par des intérêts pécuniaires. Sur la rivière Richelieu au Québec, une petite île, véritable havre de paix, devant laquelle Samuel de Champlain lui-même se serait extasié à la vue de ses pins majestueux, se retrouve en plein cœur d'un débat dont l'enjeu principal est la survie de ses boisés et milieux humides. Autrefois animée sur le plan récréatif et communautaire, église, camping, mini-golf, etc., la communauté de l'île constituait en quelque sorte un écosystème humain. Malheureusement, les activités sociales et de rassemblement communautaire qui s'y tenaient ont tour à tour disparu. Autre temps, autre mœurs. Parallèlement, l'île n'a pas échappé au boom immobilier qui frappe plusieurs régions du Québec, menaçant des espaces verts chers aux populations à proximité. C'est le cas de la petite île Sainte-Thérèse à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ce qui explique qu'un groupe de citoyennes et de citoyens se mobilise afin de conserver les derniers espaces verts sur l'île, incluant l'emblématique Pinède et les boisés avoisinants. Ils militent sous l'appellation SOS Boisé de la Pinède. Ce groupe fait face à deux autres acteurs importants qu'il cherche à convaincre du bien fondé de ses aspirations. Premièrement, la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui voit sa population augmenter et cherche à optimiser ses capacités de développement. Ensuite, il y a aussi l'industrie immobilière, dont les promoteurs voient dans les parcelles encore inexploitées de l'île Sainte-Thérèse un lucratif potentiel de construction domiciliaire, vu l'intérêt du site. Fait significatif, alors que le Canada vise la sauvegarde de 17% de ses milieux naturels, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne vise, elle, à en conserver que 1,6%. On objectera que la ville est située en zone agricole, ce qui limite la proportion de terres publiques, mais cela n'a pas empêché, il y a quelques années, la disparition d'un boisé public reconnu au profit d'un site commercial. Ce genre de scénario que nous voudrions marginal est malheureusement le fait de plusieurs municipalités au Québec. Devant ce constat, il est facile de comprendre que des groupes citoyens s'inquiètent et se mobilisent pour pallier la pauvreté du leadership municipal en cette matière. La population locale de l'île, qui jouit déjà d'un espace récréatif à distance de marche et qui tient farouchement à la conservation de sa valeur historique, patrimoniale et écologique, appuie fortement SOS Boisé de la Pinède dans ses démarches. En plus de l'Éco-Alliance au Richelieu, un regroupement de 5 organisations locales et régionales concernées par la protection de l'environnement. L'organisme a aussi l'appui de plusieurs organisations de renom, telles que la Société pour la nature et les parcs du Canada, Nature Québec, la Fondation David Suzuki, la Fondation Rivière et la Coalition Verte. Il y avait déjà eu une première mobilisation citoyenne en 2007 visant la conservation de la Pinède et de l'ancien camping Pain Vert. Une pétition avait alors récolté l'appui de 650 signataires ainsi que des députés de l'époque. Malgré cela, en 2009, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avait refusé d'inclure les lots visés dans le plan de conservation de la ville. On peut se demander pourquoi. En 2018, la municipalité revient dans le débat en lançant une consultation sur un plan d'intégration architecturale pour d'éventuelles constructions résidentielles dans les lots restants de la Pinède. Il apparaît évident que l'intention de la municipalité était à ce moment-là de favoriser la construction domiciliaire au détriment d'un écoparc. Vient alors une réaction immédiate d'un groupe citoyen pour défendre la conservation du site et en faire valoir la valeur historique, qui représente de surcroît une signature végétale unique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un avis de réserve est déposé à la ville sur la vente des lots concernés afin de gagner du temps. Avis qui sera adopté pour une durée de 2 ans, pouvant être reconduit. Entre-temps, en 2019, le mouvement SOS Boisé de la Pinède lance une seconde pétition pour la conservation du site qui récoltera 4000 signatures. S'ensuit une consultation publique organisée par le groupe, à la suite de laquelle une centaine de citoyennes et de citoyens signent une requête officielle demandant la conservation du site à perpétuité. Solidairement à la population, plusieurs groupes de conservation dans le domaine de l'écotourisme, du patrimoine et de la culture apportent leur appui à la requête. Malgré cela, et malgré l'avis de réserve voté par la ville, des promoteurs procèdent à des coupes d'arbres sur des lots privés de la Pinède. Ce ne sera pas la première fois que des promoteurs délinquants agissent ainsi. Conscients du droit qu'ont les propriétaires de lots de vendre leur propriété, le groupe poursuit son travail en soumettant aux députés ainsi qu'à l'administration municipale un plan de rachat et de financement assurant la conservation du site à perpétuité. Ce projet reçoit l'appui de la députée fédérale. S'ensuit une série d'actions du regroupement citoyen en vue de la promotion de leur projet. Socio-financement, distribution de feuillets explicatifs, vidéos de sensibilisation, corvées de nettoyage, invitation des députés et des familles à venir visiter le site, campagne médiatique, distribution de pancartes faisant la promotion du projet, sollicitation d'éventuels partenaires financiers tels que Parc Canada. En 2021, un moratoire est voté par la ville pour la protection de tous les milieux naturels qui ne sont pas dans son plan de développement dans ce domaine, mais confirme du même coup l'exclusion des boisés de la Pinède de ce plan. Probablement parce que les élus ont encore l'idée d'y faire construire des maisons. Un comité de financement environnement est créé sur lequel siégeront 2 membres du regroupement SOS Boisé de la Pinède. L'élection municipale de la même année aura reconduit majoritairement l'ancienne équipe des conseillers plus ou moins sensibles à la protection de l'environnement. Nous pouvons conclure qu'il reste encore du travail à faire pour rallier une majorité de la population à l'idée de la sauvegarde du patrimoine naturel. Donc, on ne baisse pas les bras et comme en 2021, une autre marche aura été organisée en vue du jour de la Terre 2022 avec comme thème « Faisons de Saint-Jean un riche lieu naturel ». Le parcours du regroupement SOS Boisé de la Pinède illustre bien les difficultés auxquelles l'ensemble des groupes environnementalistes du Québec et de partout dans le monde sont confrontés afin de faire reconnaître l'importance de la sauvegarde des milieux naturels, tant dans les forêts publiques que dans les milieux ruraux ou le milieu urbain. C'est le cas notamment dans plusieurs projets de conservation portés par des fonctionnaires du ministère québécois de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, des communautés autochtones, des groupes citoyens, des MRC, des municipalités, des organismes communautaires et des scientifiques. Plus d'une centaine de projets auraient ainsi été documentés dans plusieurs régions du sud du Québec et soumis au gouvernement dans les dernières années. Ces projets pour protéger des territoires importants de biodiversité auraient été écartés par le gouvernement provincial en 2020. Réagissant à cette orientation gouvernementale, une coalition d'organismes dont Nature Québec et SNAP l'a déploré en conférence de presse en mars dernier. À l'époque, le gouvernement s'était engagé à protéger 17 % du territoire et avait choisi de réaliser son engagement en ne protégeant que des forêts au nord du 49e parallèle. Selon Alice de Swart, directrice de la SNAP, les blocages systématiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs envers les projets d'aires protégées qui pourraient nuire à l'industrie forestière expliquent en grande partie cette situation. Cette conférence de presse s'inscrivait dans la suite d'autres manifestations, dont la Grande Marche pour la protection des forêts, qui s'est tenue en octobre 2021. Aussi en réaction à l'orientation gouvernementale. Selon les organisateurs de cet événement, ces aires auraient permis de mieux satisfaire notre engagement avec l'ONU pour protéger des réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires protégées et aussi pour reconnaître les besoins de base de communautés autochtones et locales. Le comité organisateur de la Grande Marche pour la protection des forêts exige, entre autres, que le gouvernement assure la protection de la centaine de projets d'aires protégées prioritaires dans le sud du Québec en terre publique, les projets d'aires protégées d'initiative autochtone et les projets d'aires protégées portés par des communautés locales et à fort soutien populaire. Les responsables demandent aussi d'empêcher la destruction des boisés urbains et périurbains dans les communautés métropolitaines et les MRC où le pourcentage de couverts forestiers est inférieur à 50 %, en adoptant une loi inspirée de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. On ne peut s'empêcher ici de penser au projet porté par le groupe local SOS Boisés de la Pinède. Beaucoup d'autres acteurs se mobilisent depuis des décennies autour de la question climatique. Il y a bien sûr l'Organisation des Nations Unies, dont un de ses objectifs de développement durable porte sur la préservation des écosystèmes terrestres, des habitats naturels et de la biodiversité. On ne pourrait passer sous silence la récente plateforme catholique Laudato Si, initiée dans la suite de l'encyclique du même nom du pape François et inspirée par le principe de l'écologie intégrale. Cette plateforme veut créer un espace de participation pour tous les diocèses, communautés, institutions et mouvements catholiques qui ont à cœur la protection de l'environnement. Il est urgent d'agir, peut-on lire sur la page d'accueil. Notre Créateur a appelé la famille humaine à être l'intendante de sa création. Mais nous avons négligé cet appel. Plus chaude, plus sale et plus morte, notre planète augmente les risques de souffrance. Ce sont surtout les plus vulnérables qui souffrent. Outre ces deux grandes institutions, mentionnons toutes les ONG dont le programme comporte un volet de protection de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que l'Union internationale pour la conservation de la nature et son programme des aires protégées. Et pour les organisations citoyennes qui trouvent que les gouvernements et institutions internationales ne bougent pas assez vite, mentionnons toutes ces initiatives qui visent à acheter collectivement des terres pour en assurer la sauvegarde de la biodiversité et la protection des espèces menacées. Pour ce que j'en connais, ces dernières organisations procèdent par sociofinancement. À titre d'exemple, en France, l'Association pour la protection des animaux sauvages qui achète des espaces verts afin que la faune et la flore puissent se développer à leur rythme et sans intrusion humaine massive. Ce genre d'association intervient un peu partout dans le monde, dont en Amazonie, menacée par l'exploitation agricole, l'élevage intensif, etc. cette fois-ci pour y sauver des terres appartenant à des communautés autochtones. Il est assez impressionnant de voir autant de personnes et de groupes de partout dans le monde se mobiliser pour la sauvegarde des habitats naturels. L'énergie et l'empressement avec lesquels ils s'activent sont palpables au contact de leurs témoignages. Certaines actions seront davantage motivées par l'amour de la nature, alors que d'autres mettront en évidence l'interdépendance entre tous les éléments des écosystèmes, incluant les humains. D'autres encore verront comme indissociables la justice sociale et la justice climatique. Le pôle intégrateur de toute cette diversité d'actions est sans doute le bien commun. L'enseignement social de l'Église catholique définit le bien commun comme étant l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Les prises de conscience actuelles concernant l'état de la planète nous forcent à reconnaître que le respect, la sauvegarde et l'amour de la création font aussi partie de ces conditions. Chacune et chacun d'entre nous, en tenant compte de notre rayon d'action respectif, avons la responsabilité d'assurer la sauvegarde de la création. Cela commence directement autour de soi, dans nos relations personnelles, avec notre environnement, là où il est possible de prendre directement conscience de notre interdépendance avec la nature, d'y reconnaître une présence agissante plus grande que soi et de nous éveiller à la contemplation. Plus largement, les associations citoyennes et des corps intermédiaires sont essentiels à la réalisation de cette mission. Bien sûr, nous devons aussi interpeller les différents paliers des gouvernements, mais comme disait une intervenante sur la question des espaces naturels à protéger, la stratégie et l'ambition de protéger de l'État n'est pas à la hauteur de l'urgence et des enjeux actuels. Si nous voulons un réel changement, il nous appartient donc à nous, citoyennes et citoyens, de prendre les affaires en main. Tout un défi si l'on considère que nos institutions ont toujours eu tendance à penser l'organisation sociale et politique sans la participation directe des citoyennes et citoyens, encourageant ainsi la passivité et l'attentisme. J'ose espérer que la peur d'une catastrophe universelle puisse éveiller en nous le meilleur de notre humanité. Chacune et chacun d'entre nous, en tenant compte de notre rayon d'action respectif, avons la responsabilité d'assurer la sauvegarde de la création. Une citation de Daniel Pellerin.